auditeurs, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous du dimanche matin, rendez-vous catholique où nous sommes en compagnie de l'archevêque de Nouméa, Monseigneur Calvet. Monseigneur, bonjour.
Bonjour.
Alors, en tant qu'archevêque de Nouméa, vous faites partie d'un organisme catholique régional qui s'appelle la CEPAC. Alors, d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que la CEPAC ?
Alors, CEPAC, c'est le nom de la conférence épiscopale des îles du Pacifique. Alors, comme il y avait des francophones et des anglophones, eh bien, le nom retenu a été le nom latin, Conferentia Episcopalis Pacifici. Et donc, il n'y avait pas de problème de prééminence d'une langue sur l'autre. Et cette conférence a été établie, comme toutes les conférences épiscopales, à la suite du Concile Vatican II. Se posait un problème après toutes les conférences nationales, conférences françaises, conférences australiennes, conférences néo-zélandaises. Eh bien, il y avait toutes les régions insulaires éparpillées. La plus éparpillée et la plus insulaire étant celle du Pacifique. Autrement dit, lorsque toutes les conférences épiscopales ont été constituées géographiquement, il restait un espace immense sur la planète. C'était l'espace de la conférence épiscopale du Pacifique, la CEPAC. Sont membres de la CEPAC, d'après les statuts, tous les évêques titulaires, coadjuteurs et auxiliaires, ainsi que tous ceux qui leur sont équivalents en droit. C'est l'article du statut de la CEPAC qui dit cela. Pourquoi je dis équivalent en droit ? Parce qu'on a certains endroits où il n'y a pas même un diocèse établi, par exemple une préfecture apostolique. C'est le cas des îles Marshall. Et pour une préfecture apostolique, celui qui est équivalent en droit à l'évêque, c'est le préfet apostolique, qui quelquefois, habituellement d'ailleurs, n'est pas un prêtre. Dans la CEPAC, on avait même deux espaces, deux territoires, où on a la plus petite juridiction imaginable en droit canonique, et donc diocèse en puissance si on veut, mais même pas vicariat apostolique, généralement confié à un évêque, même pas préfecture apostolique, généralement confiée à un prêtre, mais mission sui iuris, c'est-à-dire mission de son droit propre. Et dans ce cas-là, le supérieur de la mission sui iuris, eh bien, il est aussi équivalent à un évêque pour l'espace qu'il a donné, hormis ce qui est caractéristique du rôle de l'évêque. Par exemple, il ne peut pas ordonner de diacre, de prêtre ou d'évêque. Par contre, il donne les confirmations dans son espace. Et dans la conférence épiscopale, un supérieur de mission sui iuris a voix active de la même manière qu'un évêque.
Et c'était le cas de...
Il y avait un cas qui était connu en Calédonie parce qu'il est venu plusieurs fois, du père Camille Desrosiers. Camille Desrosiers qui était, pendant des années, c'était un mariste canadien et qui a vécu un peu comme un ermite parce qu'il y avait très petit nombre de catholiques à Tuvalu, à Funafuti. Et je me rappelle une visite à Limina où on lui en demandait combien de catholiques dans votre juridiction. Alors le préfet de l'époque, le cardinal Tomko, était prudent, il disait dans votre juridiction. Et quand on est arrivé à Tuvalu, eh bien le père Desrosiers a dit 77. Et le cardinal Tomko a demandé 77 000 ? Non, 77. C'était effectivement le nombre de catholiques dans la mission sui iuris de Tuvalu à l'époque. Donc, je me suis retrouvé membre de cette conférence épiscopale, alors avec des évêques de différentes générations, mais avec une génération montante qui était des évêques originaires des îles, ou bien pour certains aussi de Nouvelle-Zélande. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance des francophones. À l'époque, c'était Michel Copenrath, l'archevêque de Papeete, qui pour moi était précieux, comme un frère aîné. C'était Francis Lambert, qui était évêque de Port-Vila. C'était Lolesio Fuahea, évêque de Wallis et Futuna, ça pour les francophones. Mais il y avait également l'archevêque de Suva, Petero Matada. Il y avait celui de Tonga, Finau, Monseigneur Finau. Le cardinal Pio Taofinu de Samoa, et puis un certain nombre d'autres, y compris dans le nord, dans les îles du Pacifique central, et puis les îles Marianne et Marianne du Nord. Donc, il a fallu que je découvre tout cela, Et ces évêques, certains parlaient français, donc pas de problème pour la communication, mais les autres parlaient anglais. Et je dirais, ils parlaient plusieurs anglais. Il y avait l'anglais de ceux du sud, c'est-à-dire des Fidjiens, des Samoans, des Tongiens qui ressemblaient à l'anglais de Nouvelle-Zélande, mais ceux du Pacifique Nord parlaient l'anglais à l'américaine. C'était un autre anglais et j'ai dû, et ça a été pour moi assez lourd, assez difficile, parce que je n'étais pas très doué, je ne suis toujours pas très doué pour les langues, et donc il a fallu me faire comprendre et les comprendre, les suivre.
Et à quel moment devenez-vous justement président de la CEPAC?
Ah, c'est beaucoup plus tard, après un certain nombre d'années, eh bien, ayant eu l'expérience de la conférence elle-même et un certain nombre de voyages à Rome, j'ai été nommé donc président. C'était un petit peu, disons, à tour de rôle. Il fallait rendre le service d'assurer la présidence de la conférence. Et donc, après des gens comme Monseigneur Finao, Monseigneur Matada et tout ça, j'ai été nommé à la présidence de la conférence. C'est une charge que j'ai assurée pendant plusieurs mandats. Et après, j'ai même assuré la vice-présidence pour mettre en route le président suivant.
En dehors de cette participation à la CEPAC, chaque année, quand cela est possible, vous participez à l'Assemblée générale de la Conférence des évêques de France. Alors, quel est votre statut dans cette
Non,
Assemblée?
c'est assez curieux. Les évêques des territoires d'outre-mer ont une participation à la conférence épiscopale française, disons complète en ce qui concerne l'Assemblée, mais ils ne sont ni électeurs ni éligibles. Autrement dit, ils ont un peu plus qu'un statut d'observateur. Et nous sommes invités, les évêques donc des territoires français du Pacifique, régulièrement aux assemblées de Lourdes, c'est-à-dire à cette époque-là, c'était une fois par an à l'automne. Et au début, je n'y allais pas chaque année. J'y allais une année sur deux. On avait fait un accord non écrit avec Monseigneur Michel Kopenrad de Papeete et nous alternions, nous faisions tantôt l'un, tantôt l'autre. Mais petit à petit, j'ai vu qu'il était important de garder un contact suivi avec la conférence épiscopale française pour un certain nombre de questions qui nous concernaient et ça a été en fait très utile de garder le contact avec eux.
Et vous y retrouviez des amis.
Alors, j'ai découvert, mais je reconnaissais relativement peu d'évêques en France, pour la raison simple, c'est que Père Mariste, donc j'étais pas dans le circuit des prêtres diocésains, parmi lesquels il y a davantage d'évêques nommés, traditionnellement. Et puis, c'était aussi, je suis venu comme jeune prêtre en Calédonie, et donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire connaissance d'évêques. Donc j'en connaissais quelques-uns, un petit nombre, dont celui qui m'avait ordonné, Monseigneur Mondésert, un certain nombre qui étaient des anciens élèves de séminaire d'un de mes oncles qui avait été enseignant au grand séminaire d'Autun dans les années juste après la guerre. Et donc c'est eux qui m'ont accueilli, on disait c'est le groupe des Autunois, et c'est eux qui m'ont accueilli dans la conférence épiscopale française lorsque je suis arrivé. Et à l'époque, eh bien, nous faisions nos réunions dans les vieux bâtiments des sanctuaires de Lourdes.
Eh bien, Monseigneur, nous continuerons très bientôt cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et merci à vous, chers amis. Nous serons heureux de vous retrouver, comme chaque dimanche prochain, à la même heure sur cette même antenne.